Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Rondro Tshizaza. Bonjour Rondro.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Et le thème de notre émission est pour le moment « Comment la Bible nous parle de la prière ?» Nous essayons de cerner dans les textes bibliques les différentes façons de prier en nous approchant au plus près de la définition du catéchisme de l'Église catholique qui nous dit que la prière est une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Nous parcourons donc la Bible en cherchant des moments où des personnages bibliques ont avec Dieu cette relation vivante et personnelle, et en même temps en essayant d'y trouver de quoi enrichir notre propre manière de prier. Lors de la précédente émission, on lisait le premier livre de Samuel, nous avons abordé l'histoire du roi David, dont le nom signifie « le bien-aimé », et qui était en effet particulièrement aimé de son peuple, mais aussi bien-aimé de Dieu. Nous avions d'ailleurs remarqué à quel point la relation entre David et le Seigneur était profonde et forte. Et parce que David était en totale communion avec Dieu par la prière, il a aussi pu composer des psaumes avec lesquels nous prions toujours aujourd'hui. En effet, nous ne devons pas oublier que les psaumes ont une histoire qui remonte souvent à des événements très concrets de la vie du roi David. Et malheureusement, ces événements sont bien souvent des guerres, principalement contre les ennemis philistins.
Oui, mais nous avons vu aussi que même dans les combats, David tire sa force de la prière et que Dieu vient à son aide pour vaincre les ennemis. Et nous sommes maintenant arrivés au chapitre 6 du deuxième livre de Samuel, quand le roi David fait transporter l'arche d'alliance, à Jérusalem, qu'il vient de conquérir, et où il décide de s'installer définitivement. Or, pendant toute la procession qui les conduit vers Jérusalem, le texte biblique nous décrit David et ses compagnons qui dansaient devant l'arche. D'abord au verset 5, nous lisons « David et toute la maison d'Israël dansaient devant le Seigneur au son des instruments. » Nous lisons encore au verset 14 « David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. » Et ensuite, au verset 16, nous lisons « Quand l'arche du Seigneur entra dans la cité de David, Michal, fille de Saül, se pencha par la fenêtre et vit le roi David qui sautait et tournoyait devant le Seigneur. Dans son cœur, elle le méprisa. » Rappelons quand même que Michal était l'épouse de David, ce n'est pas n'importe qui. Et son mépris nous oblige à nous interroger. Y a-t-il donc quelque chose de méprisable à danser devant Dieu? Est-ce que ce n'est pas une belle forme de la prière de louange? Et que reproche donc Michal à son mari? Car nous lisons encore au verset 20 ce qu'elle dit. « Comme il s'est fait honneur aujourd'hui, le roi d'Israël, en se dénudant devant les servantes de ses esclaves, comme le ferait un homme de rien. »
Oui, on dirait plutôt donc que c'est le peu de vêtements que porte David pour danser qui la choque. Rappelons quand même que ce pagne en lin qu'il porte fait partie des vêtements liturgiques. Le lin, c'est très spécial. Mais effectivement, il n'a pas sur lui tout le luxe normal des vêtements royaux, qui d'ailleurs ne devaient pas être très pratiques pour danser. Il ne se présente donc pas avec la dignité qu'on attendrait de sa fonction. Mais lisons sa réponse. Au verset 21, c'est devant le Seigneur qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'instituer comme chef sur le peuple du Seigneur, sur Israël. C'est devant le Seigneur que je danserai. je m'abaisserai encore plus et je m'humilierai à mes propres yeux. Mais auprès des servantes dont tu parles, je serai honoré. » Donc, en fait, le point de vue de David sur sa danse est bien différent de celui de sa femme, avec laquelle d'ailleurs il va rompre toute relation, la condamnant ainsi à la stérilité, nous dit le texte. Mais il considère quand même que danser pour Dieu, c'est une façon pour lui de se déshonorer, dit-il. Mais pour lui, est-ce que c'est aussi déshonorant pour n'importe qui? En fait, est-ce que la danse peut être considérée comme une forme de prière? En tout cas, rien n'est prévu dans ce sens dans la liturgie catholique. Comment interpréter ça? Est-ce que danser est indigne d'une relation vraie entre Dieu et les hommes?
Oh non, je ne crois pas. Parce que, par exemple, chez moi, à Madagascar, on danse pendant la messe, pendant les processions d'entrée, pendant l'offertoire, pendant l'envoi. Et particulièrement pour les grands événements, comme par exemple la première moisson où on apporte les prémices de la récolte. C'est comme ça aussi en Afrique, la danse fait tellement partie de la culture qu'on trouve normal de prier en dansant pour Dieu. C'est une façon naturelle d'exprimer sa joie et de rendre grâce. Mais cela se passe bien évidemment avec une musique bien particulière, avec des instruments qui se prêtent bien à une certaine ambiance enthousiaste, comme les tambours ou les tam-tams. Mais en Occident, la culture musicale est tout autre et les habitudes de participation aux messes sont très différentes. On est plutôt immobile et peu expressif, à part quelques chants, les réponses aux prêtres et les prières, le corps reste très peu concerné. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est une bonne idée que dans nos séances de catéchèse, par exemple, on essaye d'apprendre aux enfants des prières gestuées pour les habituer à s'exprimer avec le corps entier. Et ils aiment beaucoup ça. Mais bien sûr, on est loin d'apporter des changements à la messe traditionnelle. Dans certaines paroisses, la messe de l'Épiphanie, appelée messe des nations, peut être l'occasion d'une forme de liturgie différente, mais ça reste exceptionnel. Je pense que la culture liturgique occidentale reste encore très cérébrale et un peu hiératique, comme si la solennité du culte nous obligeait à rester très retenus et intériorisés.
Vous écoutez l'émission La Bible en question, nous parlons de la prière dans la Bible. Et nous lisons en ce moment dans le deuxième livre de Samuel l'histoire de David quand il dansa pour Dieu devant l'Arche d'Alliance. Et nous nous demandons pourquoi nos liturgies occidentales ne font aucune place à une prière dansée. Il y a pourtant eu, je me souviens, des tentatives, mais très vite oubliées. Je pense par exemple à Mireille Nègre. C'est une célèbre danseuse étoile qui devint carmélite, mais qui, au bout de 10 ans de vie cloîtrée, revint à une simple vie de vierge consacrée pour pouvoir danser pour Dieu, en espérant faire changer nos habitudes religieuses. Elle est venue danser à la cathédrale, je m'en souviens. Elle a écrit de nombreux livres sur cette question. Déjà en 1984, le titre c'était « Je danserai pour toi ». Elle expose sa vocation nouvelle. En 2009, elle a écrit « Danse avec Jésus ». Et même encore plus récemment, avec un philosophe, elle a écrit « L'art et la vie ». En fait, tous ces ouvrages où elle tente de convaincre que l'importance du corps, de la danse et l'importance du corps pour prier. Mais bon, la méfiance reste grande, comme si, je pense, il y avait un peu la peur d'une exaltation qui serait trop païenne. En tout cas, le roi David, lui, persiste et signe, hein, puisqu'il va composer le psaume 9, qui commence ainsi. « De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut.
Oui, mais je crois vraiment qu'il faut prendre en compte la culture du peuple. C'est ce qu'on appelle l'inculturation.
Oui.
Mais revenons à David. On peut penser que le Seigneur a apprécié la prière dansée de David, hein, puisque dans la suite du texte biblique, le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel commence par une nouvelle alliance entre Dieu et David par l'intermédiaire du prophète Nathan. Alors, la situation du roi a changé. Il vit maintenant en paix à Jérusalem, où il s'est fait construire un palais. Et cela lui donne envie de bâtir aussi un lieu saint pour accueillir l'Arche d'Alliance. Il demande donc à Nathan pour avoir une réponse du Seigneur. Mais la réponse n'est pas tout à fait ce qu'il attendait. En fait, Dieu a d'abord un autre projet pour le roi David. Nous lisons donc dans le chapitre 7, les versets 11 à 13. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, lui sera pour moi un fils. Alors, ces paroles de Dieu peuvent être comprises comme une prophétie du règne du fils de David, le roi Salomon, puisque c'est lui qui se chargera de la construction du temple à Jérusalem. Mais on peut aussi y voir un tout autre sens.
Bien sûr, on ne lit pas ce texte de la même façon selon qu'on est juif ou que l'on est chrétien. Au premier degré, il s'agit évidemment de la promesse de Dieu d'établir une dynastie royale stable. C'est le double sens du mot « maison » et qui fera resplendir la présence de Dieu au milieu de son peuple, donc par la construction d'un temple de pierre. Mais un chrétien, il entend derrière ces paroles l'annonce de la naissance du Christ, Jésus-Christ, fils de David. En effet, l'évocation ici d'une royauté stable pour toujours, ça fait penser qu'il s'agit bien plus que de successeurs de la dynastie royale, puisqu'on sait qu'elle va connaître bien des accidents, des échecs et finalement disparaître avec l'exil à Babylone. Pour la foi chrétienne, la descendance définitive ne peut être que celle du Christ ressuscité. Nous savons d'ailleurs que Jésus a enseigné que le vrai temple, c'est son corps. Nous pouvons lire ça dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 19, où Jésus dit « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Il évoque sa résurrection. Et pour nous, donc, la maison, c'est celle du Fils de Dieu, c'est-à-dire l'Église, dont nous croyons qu'elle ne disparaîtra jamais. Reste quand même que nous ne devons pas évacuer l'histoire concrète qui prépare la venue du Christ, c'est-à-dire l'alliance avec le roi David, qui aura effectivement une succession royale brillante en son fils Salomon, ce qui permettra d'ailleurs à David d'écrire son psaume 2, dont le verset 7 dit « Je proclame le décret du Seigneur, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. »
Mais le psaume 2 est également interprété comme une prophétie messianique et nous le chantons dans le temps de Noël.
Eh oui.
En fait, la promesse que Dieu fait à David de lui établir une dynastie éternelle, même s'il n'en a pas conscience, cette promesse concerne déjà Jésus comme Messie issu de la descendance de David. Et la suite du chapitre 7 du deuxième livre de Samuel nous montre comment le roi David va réagir en recevant cette promesse. C'est par une prière d'action de grâce incroyablement longue de 11 versets que nous ne pouvons pas, bien évidemment, tous lire ici, mais on peut quand même, avec quelques versets, se rendre compte de la grande humilité du roi. Le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur et dit « Qui suis-je, Seigneur Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusque-là ?» Il comprend donc que ce qu'il a reçu vient de la grâce de Dieu. Par exemple, au verset 21, il continue « C'est à cause de ta parole et selon ton cœur que tu as accompli toute cette grande œuvre. » Et plus loin, à partir du verset 27, « En effet, c'est toi-même, Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. » Et enfin, l'aboutissement de la longue prière de David, qui est une demande de bénédiction, que nous pouvons lire au verset 29. « Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit toujours en ta présence. »
On peut quand même reconnaître dans ces phrases, des paroles presque semblables dans ces psaumes, et en particulier dans les psaumes dits royaux, où David rend grâce pour la grandeur de la fonction royale bénie par Dieu. Je pense par exemple au psaume 21, dont je vous lis quelques versets. Donc le début du psaume 21. « Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédictions et bienfaits. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. » Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours, ta présence l'emplit de joie. Voilà donc un psaume d'action de grâce. Et dans ses prières, David est vraiment pour nous un modèle. Il y a tellement d'intensité dans sa relation avec Dieu et une telle gratitude pour tout ce qui lui arrive. Et pourtant, sa vie est difficile, remplie de guerres amené avec bravoure et d'ennemis partout à vaincre. Et ça se voit d'ailleurs dans la suite du texte de 2 Samuel, le chapitre 8, qui raconte les guerres de David, toujours les Philistins et les Ammonites. Mais dans le chapitre 8, le verset 14 nous le dit, « Le Seigneur donna la victoire à David partout où il alla. » Voilà. La merveille de la vie de David, c'est quand même ça, cette réciprocité dans l'amour qu'il porte à son Seigneur. Le Seigneur le lui rend bien. Alors, je ne sais pas, peut-être on pourrait nous-mêmes nous se demander si cette réciprocité existe aussi dans nos vies. Dieu nous aime, est-ce que nous aimons Dieu ?
Enfin, en tout cas, selon l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, au premier verset, Jésus dit « C'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. »
Eh oui, on obtient ce qu'on a semé.
Ce qu'on a semé, voilà. Nous devons donc admettre que, comme pour David, il y a une part de responsabilité personnelle dans ce qui nous arrive. Parce que, d'ailleurs, la grâce de Dieu ne force pas quelqu'un qui voudrait la refuser. Mais nous ne devons quand même pas trop idéaliser le roi David, ni vouloir le prendre pour modèle en tout. Parce que nous arrivons à un moment de sa vie assez peu brillant et qui l'a malheureusement rendu tristement célèbre. Alors, je vous lis quelques versets du chapitre 11 du deuxième livre du roi Samuel. Du prophète Samuel, pardon, les versets 2 à 4. Sur le soir, David se leva de son lit. Il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi. Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se baignait. La femme était très belle. David envoya prendre des renseignements sur cette femme et on lui dit « C'est Bethsabée, la fille d'Éliam, la femme d'Uri le Hittite. David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. Et non seulement David vient de commettre un adultère, mais il va aussi se débarrasser du mari trompé. Voici la lettre qu'il écrit au chef de l'armée. Alors nous pouvons lire au verset 15. « Mettez Uri en première ligne au plus fort de la bataille. Puis vous reculerez derrière lui. Il sera atteint et mourra. » Et ça s'est passé ainsi.
Oui.
Donc par cette vilaine stratégie, David devient franchement un meurtrier. Et on se demande, mais est-ce qu'il pensait à Dieu à ce moment-là ?
Vous écoutez l'émission La Bible en question à propos de la prière dans la Bible et nous parlons du roi David dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 11, à un moment où il vient tout simplement de se déshonorer là par un terrible double péché, l'adultère avec la femme d'un de ses soldats et le meurtre sournois de ce soldat envoyé se faire tuer au combat. Alors à sa décharge, le texte nous dit qu'il recueillit ensuite cette femme Bethsabée qu'il aimait probablement sincèrement, qu'il l'épousa et elle lui donna un fils. Mais si dans cette histoire, David a complètement oublié Dieu, Dieu, de son côté, lui, se souvient toujours de David et lui envoie un prophète, Nathan, pour qu'il lui fasse prendre conscience de son péché. Mais Nathan va lui raconter une histoire comme si c'était que ça concernait un autre homme qui s'était rendu coupable. Et à cette histoire, voici la réaction de David au verset 5 du chapitre 12. Donc, David entra dans une violente colère contre cet homme et il dit à Nathan, « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela !» Ah, voilà une réaction bien habituelle chez les humains. Hein, c'est un peu ce que Jésus a dit avec la poutre dans ton œil, enlève-la pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. On voit facilement le péché chez l'autre, rarement chez soi-même.
Oui, mais en tout cas, là, le prophète Nathan a été très astucieux puisque il n'a plus qu'à ajouter « Cet homme, c'est toi ». Et là, David s'effondre. Il est enfin conscient du mal qu'il vient de commettre et des conséquences de ses actes. Et là, étonnamment, David va redevenir le modèle de prière que nous connaissons. Il va tout de suite dire au prophète Nathan, nous lisons au verset 13, « J'ai péché contre le Seigneur ». Et parce qu'il reconnaît ainsi son péché sans se dérober, le châtiment qu'il attend ne sera pas la mort comme c'était prévu, mais ce sera la mort pour le fils de Bethsabée, le fils que Bethsabée vient de lui donner. Alors c'est quand même terrible, hein, comme punition à cette époque où avoir un fils était tellement important, surtout quand il est le fruit d'un amour sincère pour la mère. Aussi quand l'enfant commença à tomber malade, David se mit à prier Dieu, à jeûner, à faire pénitence en s'infligeant des mortifications pour Dieu, pour que Dieu épargne son fils. Mais au bout de 7 jours, l'enfant mourut quand même. Alors le verset 20 nous dit « David se leva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Puis il entra dans la maison du Seigneur et se prosterna. Il a enfin accepté son sort. Il veut retrouver sa relation à Dieu. Il reprend donc une apparence normale pour se présenter devant le Seigneur et il se sent pardonné. »
Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Après de tels péchés, il a parfaitement confiance que maintenant, sa faute est effacée. Il reprend sa vie normale et sa relation conjugale avec Bethsabée, qui va donc lui donner un deuxième fils, Salomon. Et le texte, verset 25, nous dit « Le Seigneur l'aima » donc il s'agit de Salomon, Il envoya dire par l'entremise du prophète Nathan. Il lui donna le nom de Yedidia, c'est-à-dire aimé du Seigneur à cause du Seigneur. Alors, il faut avouer que nous-mêmes sommes quand même souvent incapables d'accueillir la miséricorde divine avec autant de simplicité que David. Même si le pardon a été accordé et la faute effacée, nous avons plutôt l'habitude de ruminer le passé et parfois même d'entretenir une culpabilité mortifère. Ici, pas du tout. L'amour a repris le dessus sur le péché. La relation entre Dieu et David est redevenue comme avant, intense. Et donc, cette capacité de David à faire pénitence, son humilité pour confesser ses fautes et son repentir sincère, de cela, nous devons surtout retenir qu'il en a fait un psaume, un extraordinaire psaume, le psaume 50, qui est toujours pour nous une des plus belles prières pénitentielles qu'on connaît encore sous le titre latin de Miserere. On pourrait peut-être terminer cette émission en écoutant ce psaume.
Oui, enfin, mais en nous souvenant du contexte de sa rédaction, qui nous est expliqué dans les versets 1 et 2 du psaume, mais qui ne sont bien sûr jamais chantés. Je vous les lis. Du maître de chant, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui après qu'il fut allé vers Bethsabée. Ce merveilleux psaume est donc l'expression des regrets de David après qu'il prit la femme d'Uri le Hittite, tout en envoyant celui-ci à la mort. C'est sa sincère demande de pardon. Et surtout, souvenons-nous que Dieu a répondu favorablement à cette belle prière de David et que la miséricorde de Dieu est toujours agissante pour nous aujourd'hui quand nous prions avec ses paroles. Écoutons donc maintenant le psaume 50, le Miserere, chanté ici par les moines de l'abbaye Notre-Dame de Timaduc. Et avec, nous vous disons au revoir, chers auditeurs, à très bientôt.
Au revoir à tous.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant.
Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait.
Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire.
Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Annoncera ta gloire.
sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Accorde à Sion le